ne vous oblige pas à faire voter un vrai budget. Par contre, le Code général des collectivités territoriales dit la chose suivante, c'est que en matière de crédit de fonctionnement, le budget est couvert à la hauteur de celle de l'exercice en cours. C'est-à-dire que l'ordonnateur peut très bien aller jusqu'à 80% de ce budget. Il dit aussi la chose suivante, c'est qu'en matière d'investissement, là par contre, donc, nous sommes bornés par une hauteur de 25% de l'exercice en cours. Alors concernant le budget de fonctionnement, ce budget prévoit donc 482 947 399 € pour le budget principal, 1 681 799 € pour le budget annexe de la MDEF, et concernant donc l'investissement, 25% des sommes du budget 2014 qui correspondent à 2 015 067 € pour le budget principal, 12 792 € pour le budget annexe de la MDEF et 14 396 € pour le budget annexe transport. Vous l'avez dit aussi, il s'agit aussi d'approuver une nouvelle autorisation de programme pour le phare 2015. Phare 2015 de montant de 6 479 900 €, dont l'échéance de paiement, et vous l'avez dans le dossier, sera de 2 millions pour l'année 2015, 3 087 000 en 2016 et 982 953. De même, une autorisation de programme pour les politiques territoriales de week-end d'un montant de 1 679 000 dont l'échéancier des crédits vous est donné en annexe. Voilà. Donc nous vous proposons, la commission des finances ayant approuvé ce prébudget, donc le président conseille de le soumettre au vote.
Demande de parole, merci Marc Léo.
Monsieur le Président, juste un point qui m'a un peu alerté, c'est que, comme d'habitude, comme nous votons des AP, nous votons des CP différés sur 1, 2, 3 ans. Et comme d'habitude, le montant maximum tombe sur la deuxième année, à savoir en l'occurrence 2016. Alors quand on voit la dernière page 78 du rapport, on voit qu'on impacte 2015 de 2 millions d'euros, on impacte 2016 de 4,3 millions d'euros, 2017 de 1,8 millions d'euros. J'ai toujours une petite inquiétude sur le fait qu'on puisse prévoir dès maintenant qu'on aura 4,3 millions d'euros sans problème pour des politiques non obligatoires du Conseil général. Ça me semble toujours un peu optimiste. Soyons optimistes, mais soyons aussi prudents. J'ai toujours une petite inquiétude là-dessus, Président. J'espère que nos finances seront et que l'État nous aidera toujours autant en 2015 pour pouvoir payer ces CP 2016.
Bien, moi, je ne suis pas non plus persuadé qu'on paiera tout en 2016, parce que les collectivités souvent ne dépensent pas forcément. On s'aperçoit qu'il y a du retard dans les consommations du phare notamment. On approche l'économie qui ne sera pas forcément sera policé à partir de la fin de l'année, je suppose.
Oui, merci Monsieur le Président. Bon, moi je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, et le Conseil général de façon générale, pour la clairvoyance que vous montrez, que vous avez eue, bon, dans le cadre de ce pré-budget, certes, mais aussi dans le fait que vous souhaitez de faire le maximum pour que les structures, dans cette année charnière que nous vivons là, que les structures locales, et notamment les structures qui portent les politiques territoriales dans ce département, n'aient pas trop à souffrir de cette année charnière et qu'il y ait un minimum de garantie. Je pense que en fin de mandat des conseillers généraux, je crois que c'est une question d'esprit, d'avoir l'esprit serein, de pouvoir démarrer et terminer les choses comme vous l'avez indiqué. tout ça, je voulais vous dire par rapport à ça, c'est important, y compris par rapport à tout ce qui a pu être lancé, suivi dans des structures locales, territoriales.
Merci, merci Henri Forgue, bon, j'apprécie le commentaire, je veux que je vous pense aussi pour les conseillers généraux qui arrivent en fin de mandat, qui n'ont pas le souhait de se représenter, ou même s'ils sont présents, c'est aussi une raison importante, de pouvoir notamment avoir l'opportunité de faire le phare 2015 sur les bases des années précédentes, puisque après le mois de mars, bah, il faudra tenir compte de nouveaux espaces territoriaux, et ça laissera donc pour 2016 un espace de réflexion entre le mois d'avril et la fin de l'année. Merci pour ce commentaire. Donner la parole à José Marthe sur le projet de lieu.
Oui, monsieur le président, mes chers collègues, à l'entrée au démarrage de cette réunion, vous avez rappelé dans votre propos, Michel Pellieu, que vous étiez à Pau et nous étions un certain nombre de collègues à Pau pour assister à cette réunion annuelle de l'Association des départements de France. Et nous avons entendu, il y a eu des informations extrêmement intéressantes. Vous parliez de Rousset, qui est président des régions, qui était présent, effectivement. Il a tenu des propos qui vont plutôt dans le sens de ce que nous souhaitons. Et puis, il y a eu Manuel Valls, qui est venu le premier jour, qui a passé une heure avec nous, pour annoncer rien, d'ailleurs. Annoncer rien, si ce n'est que c'est à l'image un peu de cette année de 2014, qui restera marquée quand même dans les annales, au niveau des rétropédalages et des contradictions de l'exécutif. Parce que le tandem Hollande-Valls nous en a servi quand même une série et sans piquer des verres. On est passé de tous les cas de figure s'agissant de la collectivité départementale à l'âme de la disparition, au maintien momentané, et puis jusque maintenant, dit-on, le rétablissement des départements dits ruraux. Pour autant, on est toujours dans l'incertitude et on a rarement été dans une situation comme celle-là, puisque le Parlement n'a pas encore décidé de quelle compétence. Et c'est quand même là le cœur du problème. À partir du moment où on nous dit, au terme de ce rétro-pédalage de l'exécutif, que bon, finalement, nous aurions une existence maintenue, on ne sait toujours pas, trois mois avant une élection, on n'avait jamais été confronté à une telle situation, on ne sait toujours pas sur quelle compétence. Alors, est-ce que nous serons une coquille vide ou semi-vide, ou est-ce que nous aurons effectivement un indien de certaines compétences, comme les routes, au nom de la proximité, etc. Bon, je ne redéveloppe pas ce plaidoyer, je crois que sur ce plan-là, on est sur la même longueur d'onde, mais la page reste acquise. On ne sait pas ce qui va résulter du débat au Parlement. Et puis, réforme territoriale, ça concerne les départements, bien sûr, je ne reviens pas sur le binôme, etc., etc. Toutes les énormités, toutes les anomalies de ce scrutin qui va se produire dans 23 mois, mais ça concerne également les régions. Alors les régions, lorsque Valls s'est passé, on ne savait pas encore ce qui résulterait du vote final et du découpage final. Bon, alors le découpage final, on l'a appris, et moi je suis de ceux qui regrettent que la région Midi-Pyrénées se retrouve mariée à la région Languedoc-Roussillon. D'autres hypothèses avaient été formulées. Jeannine Duvier en avait porté une qui concernait les trois régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Bref, tout ceci au nom du centralisme parisien, et pour reprendre ces termes, tout part du haut vers le bas et s'applique au bas, on subit des décisions prises par un exécutif dont on sait quel est son niveau de popularité. Les sondages, opinion favorable pour François Hollande, 19%, j'ai compté ce matin ça à la radio, 19%. Quand on se souvient que le vote à l'Assemblée nationale pour le découpage des régions, il n'y avait que 10 voix d'écart. Il n'y avait que 10 voix d'écart. Et si là aussi on se souvient que s'il y avait une dissolution aujourd'hui, eh bien, il y aurait 500 députés de droite et du centre, mais quelle est la légitimité de l'exécutif et de l'Assemblée nationale et des assemblées parlementaires pour prendre des décisions dont on sait que le peuple souverain, avec lequel le peuple souverain n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, j'ai toujours été partisan à nos listes historiques dans cette Assemblée, j'ai toujours été partisan des référendums. Parce que ce dont souffre notre société actuellement, c'est de l'effritement de la représentation actuelle et on manque de démocratie directe. Et sur des sujets importants d'organisation du territoire de la République, comme sur les débats de société, le mariage gay, etc., eh bien, il ne faudrait plus avoir peur d'avoir recours régulièrement au référendum. Car seul le peuple souverain peut sereinement et définitivement régler ces questions. Parce que quel est donc certes, c'est légal, les votes de l'Assemblée nationale sont légaux, mais sont-ils légitimes quand on sait que s'il y a des dissolutions, on sait quel serait le résultat aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire dans le prolongement de votre introduction, avant de basculer maintenant sur cette affaire de pré-budget. Alors, le pré-budget, c'est pour la quatrième année consécutive, vous nous proposez, découlant donc de ce fameux article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, vous nous proposez d'en débattre et de voter. Vous n'y étiez pas tenu. Donc, je vous rends acte d'avoir, en ouvrant cette discussion, avoir fait un acte éminemment et démocratique. Mais à partir du moment où la discussion est ouverte, eh bien, vidons notre cœur et disons ce que nous en pensons. Moi, j'ai toujours considéré, dès l'origine, après vous avoir rendu acte d'avoir ouvert ce débat, que c'était quand même des conditions exceptionnelles et exorbitables. Exorbitables! Parce que ce n'est pas d'un pré-budget dont il s'agit, c'est un quasi-budget. C'est un quasi-budget au niveau des masses financières. Au niveau des masses financières, nous reconduisons 482 millions, etc. C'est quasiment l'intégralité de ce que sera le budget définitif au mois de mars prochain. Et je dirais même, dans la situation actuelle dont je parlais précédemment, c'est presque un exercice virtuel que nous venons, puisque nous ne sommes sûrs, la seule chose dont on est sûr, c'est que nos dotations diverses, etc., venant de l'État, vont diminuer. Est-ce qu'on sera même capable d'assumer ce quasi-budget, ce pré-budget, au niveau que nous affichons? On ne sait pas, parce que les chiffres qui ont été apportés à la discussion, à la réflexion hier à la Commission des Finances, ils sont extrêmement inquiétables. On parle de plusieurs millions de diminution dans telle notation, les DMT, on ne sait pas ce que ça va donner, on parle de 10 millions, on ne sait plus, on ne sait pas trop dans quelles conditions va pouvoir se voter définitivement le budget primaire. Je considère que c'est une facilité exorbitante en règle générale, depuis que nous le faisons, et extrêmement risquée, parce que nous ne savons pas où nous allons. Et je souhaitais donc, et je le redis, à quoi bon voter des sommes aussi importantes. On sait bien que ce n'est pas dans les 3 mois qui viennent que ces 482 millions de fonctionnement la masse concernant le fonctionnement sera consommée, ou les investissements, c'est pas dans les 3 mois. C'est la raison pour laquelle j'aurais préféré l'option de 12e, que nous votions des 12e, puisqu'il y a 3 mois d'ici à l'élection. Certes, il faut bien que les services publics continuent à fonctionner, bien sûr. On ne va pas fermer tous les robinets au 31 décembre. Il faut donc que nos services fonctionnent jusqu'à la date de vote du budget. Mais on n'était pas tenu, ça a toujours été ma position, de voter l'intégralité de ces masses financières. On vote par 12e. Voilà. Donc, nous avons la vote pour ce qui nous concerne. Comme précédemment, je ne voterai pas sur les budgets.
Bon, je vous donne la parole à Jacques Durieux, mais avant, je veux dire qu'on n'a pas voté, des masses, c'est encadré par des commentaires que je peux ressortir. Et oui, non, mais on n'engage pas, on ne va pas faire demain des mandats de 560 000 euros à la MDPH, on ne va pas faire demain un mandat de 108 000 euros au SDIS, 290 000 euros au Pic du Midi. Bon, s'ils ont besoin d'acompte, ça permet simplement de donner des acomptes. Alors, bon, il faut reprendre la sémantique, enfin, pour ceux qui seront en charge de la gestion des affaires à ce moment-là. Bon, reprendre peut-être la formulation, mais on n'a pas voté ces sommes-là. C'est un cadre de commentaires qui permettent de... Bon, la loi permet d'afficher la totalité du chiffre. Je peux entendre qu'on affiche... On ne l'a pas fait pour l'investissement. On a dit qu'on ne peut engager que jusqu'à concurrence de 25%. On n'a pas jamais affiché les 100% de l'investissement de l'année précédente. Alors, il n'y a rien de risqué à ce moment-là. Puis je veux dire que l'année dernière, à la même époque, bon, on était aussi dans du pessimisme par rapport au budget. Bon, on a le droit cette année aussi de l'être, plus que l'année dernière. Mais moi, j'attends de voir les décisions qui vont tomber de l'État. Bon, on sait qu'on a moins de 3,5 de DGF. Après, sur les histoires de fonds de péréquation liés à tout un tas de paramètres dans lesquels bon, les services de Bercy font tourner la moulinette, bon, ça peut nous être favorable comme moins défavorablement. L'autre jour, à Pau, bon, il y avait plutôt l'ensemble des élus ressortaient avec un sentiment plutôt favorable sur les annonces faites. Bon, donc, restons prudents. Chaque jour suffit sa peine. On s'adaptera en fonction des éléments financiers dont on aura connaissance pendant le mois de janvier, sans doute. Josette Lurieux. Oui.
Bon. Merci, Monsieur le Président. À José Marthe, la légitimité du Président de la République, déjà s'il est à 19, je crois. Non mais, il faut se satisfaire de tout. Bon. Et j'ai envie de dire, elle est attribuée en début de mandat et elle est vérifiée à la fin. Alors arrivons à la fin. Et on reste lucide, hein, vous et nous. Le référendum de Gaulle, et oui, très bien, sauf qu'on n'a pas tellement une culture de référendum. Et que le référendum en France, dans son histoire et sa pratique, ça a toujours été un plébiscite. On n'a pas la culture des Suisses. Je le disais à l'instant dans la presse, les Suisses viennent à une très grande majorité à l'issue du dernier référendum de se prononcer contre la limitation de l'immigration. Ben, je voudrais bien voir le résultat en France, si on faisait un référendum. Et comme De Gaulle ne lisait pas dans le marc de café, il n'a pas pu non plus anticiper sur ce que pouvait donner le dernier qu'il a engagé. Mais il est, de façon très honorable, il est parti. Parce que le plébiscite n'a pas été un plébiscite. Bon, en ce qui concerne le département, Président, vous avez commencé tout à l'heure en disant « nous résistons ». Et maintenant mieux, moi je m'en réjouis, c'est vrai. Il y a 30 départements en faillite, pratiquement, au bord de la faillite. Donc nous résistons. Moi je me réjouis sans que nous soyons de façon excessive optimistes. On reste vigilants. Inutile d'être pessimiste. On n'a pas besoin de jouer là-dessus. Je me réjouis aussi du fait que vous considériez qu'il faut maintenir autant que possible les investissements et les politiques territoriales. Et d'ailleurs l'État, mais on verra après, hein, José Marthe, mais l'État effectuera fera une différenciation dans l'aide qu'il apportera aux politiques territoriales en faveur justement des investissements. Alors, écoutez, à chaque jour suffit sa peine, je me satisfais de la situation, j'accompagne votre vie. En ce qui concerne le débat sur la réforme territoriale, moi je n'ai pas envie de revenir sur un certain nombre de choses dites. Comment aurait-on pu laisser en jachère et en gérer 70% du territoire, sous prétexte qu'on avait fait les métropoles, créer les métropoles et restructurer une nouvelle région. Donc, si vous voulez, sur le fait que cet espace-là devait être géré, je n'avais pas de doute, et José, je suis tout à fait d'accord pour dire que les propos ont été absolument aventureux à un certain moment, quand on a dit on va supprimer, on ne pouvait rien supprimer et nous ne voulions pas, majoritairement la preuve, cette suppression. Encore une fois, le territoire rural, quand on a fait la métropole et restructuré les régions, c'est 70% de la France, mais une bagatelle, hein, une bagatelle. Ça fait encore, moi je le répéterai sans cesse jusqu'au moment où on en sera les uns et les autres convaincus, 12 à 14 millions en fait d'habitants, plus que le Grand Paris selon la couronne que l'on choisit. Et j'insiste sur le fait que ça représente toujours 40 à 50% de l'industrie française. Comment pouvait-on penser que cet espace-là ne méritait pas une attention particulière avec une gestion particulière? Donc on gardera les départements. Je suis d'accord avec vous pour dire que la loi est en temps des bonnes, à propos de ça. Effectivement, les compétences ne sont pas définies, ça commence à s'éclaircir un petit peu, et les modalités de la gouvernance non plus. C'est un sujet sur lequel on ne répond jamais hein, aux interlocuteurs. Voilà. Donc chacun peut, si vous voulez, nourrir le débat de son propos. Alors en ce qui concerne les compétences, moi j'ai simplement envie de dire à l'instant, Président, ne manquons pas, ne déplaçons pas le débat maintenant, repositionnons-le là où il doit être. Il faut être vigilant aux compétences que les régions ont. Celles-là, on sait qu'elles seront au plan de l'économie affectées à la région. On débat sur les routes, c'est plus la peine d'en débattre, je crois que c'est acquis, les départements vont les garder, parce que la région n'en veut pas. Hein. Bon, il y en a des présidents de région au Sénat. On débat encore sur le collège. Bon, et effectivement, il y en a dans la cohérence d'une réflexion et qui disent il faut une verticalité au niveau du système éducatif français qui met sur la même verticale, autrement dit dans le même positionnement politique, le collège et le lycée, parce qu'il y a à la charnière des deux des problèmes importants pour les enfants, pour les élèves liés à la formation et à l'orientation. Soit. Mais à côté, il y a tous ceux qui continuent à dire compte tenu de ce que nous avons fait des collèges, nous voulons en garder la maîtrise. Ce n'est pas tranché, hein. Ça, ce n'est pas tranché. Alors, personnellement, et vous rejoignez, j'en suis sûre, cet aspect des choses, je pense qu'il est important de ne pas perdre la main en matière d'initiative économique et de tourisme. Et nous sommes tous d'accord, tout simplement parce que notre vie dans ce département a été faite d'un combat contre ce qu'on perdait pour le remplacer par ce qu'on n'avait pas. Et encore une fois, on a les uns et les autres, en mettant bout à bout tout ce qu'on a fait réussi, hein, tout étant relatif, même le bonheur, disait De Gaulle, hein, on a tout de même réussi. Donc faisons attention à ne pas perdre la main en matière économique et en matière touristique. Moi j'ai essayé de le dire l'autre jour, c'est pas trop facile de parler hein, l'autre jour, mais enfin, soit, hein, pour moi le débat il est ouvert, disons que c'est pas ça à ce stade de ma vie politique qui m'émeut. J'ai dit... laissons ou partageons en tout cas de façon maîtrisée la compétence économique et touristique avec la région. Et le ministre, le premier, m'a répondu, oui mais madame la sénatrice, tous les départements ne sont pas touristiques. Sauf que l'INEF fait son chemin et qu'il y a une analyse particulière de la région Midi-Pyrénées qui a été faite pour positionner le tourisme et que René Van Den Brom, je ne sais jamais dire son nom, qui est rapporteur au Sénat, a rapporté en prenant l'exemple du Midi-Pyrénées que le tourisme devait être laissé au département. Eh bien écoutez, ça veut dire que le débat à un certain moment peut être engagé, qu'il peut avancer, je pense que ça nous intéresse tous. Alors j'ai envie de dire, et là nous devons chacun dans notre espace, faisons attention aux compétences partagées de la région, parce que c'est là que va se situer, si vous voulez, notre démarche offensive. Une idée est passée, Jeannine Dubié, il faut ferrailler beaucoup pour que nous la faisions, si vous voulez, graver dans le marbre, la différenciation des territoires. Ça, il l'admet. Et c'est au nom de la différenciation des territoires que nous pourrons, avec la région, avoir des compétences partagées. Donc je crois qu'aujourd'hui, le débat... il doit se positionner là-dessus. Soyons vigilants, ne partons pas à côté. Le département est sauvé, la gouvernance, on verra après. Attention aux silences qui sont parfois éloquents. Il y a peut-être une idée cachée dont je n'ai aucune révélation, bien sûr. Alors, Monsieur le Président, je voudrais apporter ma réponse à votre questionnement de tout à l'heure. Je voudrais qu'on me dise l'intérêt des grandes régions. Alors, moi, je ne sais pas si c'est l'intérêt des grandes, des très grandes régions que je veux défendre. C'est, si vous voulez, l'intérêt des régions dans lesquelles nous sommes maintenant, parce que ça, c'est voté. Il y en a 13. Et nous sommes... Hein? C'est fini.
C'est pas fini parce
que oui. Mais enfin, considérons que c'est fini. Et que nous sommes dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Bon, elle est grande. Nous sortions d'une région grande comme les Pays-Bas. Nous entrons dans une région grande, je ne sais plus quel exemple a pris le président Malvy l'autre jour. C'est la deuxième en France en termes de superficie. Mais 5 600 000 habitants, un PIB de 144 milliards, je reprends ce que vous lisez tous dans la presse, fait de la région Midi-Pyrénées-Languedoc la cinquième et la, en France et la dixième en Europe. L'Aquitaine, 5 800 000 habitants, elle était mal partie si elle était restée seule, hein, l'Aquitaine. Elle était à 3 millions, je pense que là vraiment c'était une force réduite au minimum.
C'est le PIB.
La Catalogne, écoutez, 7 600 000 habitants et un PIB de 203 milliards. Celui de Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon sera de 140. Alors moi je veux insister sur deux choses. Où est-ce que je vois la force de cette région? Et je l'ai privilégiée depuis le début par rapport à une jonction avec l'Aquitaine. Alors bien sûr, si on avait pu faire une grande région aux Pyrénées, pourquoi pas? Il aurait fallu analyser les forces et les faiblesses, parce que les Pyrénées ont toujours été une barrière. On ne les passe pas facilement. Les Alpes ne sont pas une barrière. Alors la force de la nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, pour moi, c'est deux choses essentiellement. Il y en a d'autres. C'est Toulouse. Toulouse aéronautique. Midi-Pyrénées, personne ne connaît. Hein. On connaît Toulouse. Entre parenthèses, c'est une marque touristique invendable, hein. Midi-Pyrénées. Invendable, hein. Sachez-le. Et aujourd'hui, on raisonne en termes de marque. Mais l'aéronautique qui fait de Toulouse, mais alors une puissance mondiale, première au niveau européen, un des premiers rangs au niveau mondial, et tous les pôles de compétitivité qui sont venus se développer autour de ce pôle majeur, sincèrement, Midi-Pyrénées, c'est une force en soi. Et moi, j'ajoute la Méditerranée. Alors, bon, je vais redire une chose que j'ai peut-être déjà dite, mais j'insiste là-dessus. Il faut que nous nous mettions en tête aussi l'une des réflexions qui fait son chemin très vite maintenant, c'est que la grande région au monde du 21e siècle aura pour pivot l'Afrique. L'Afrique, avec 2 milliards d'habitants et 750 millions de francophones en 2050. Et si on regarde la grande verticale que va constituer l'Europe avec la France, la Méditerranée qui est la deuxième mer du monde, la première c'est la Manche, c'est pas le Pacifique. Première la Manche, deuxième la Méditerranée, dans l'Europe, la France, la Méditerranée, le Maghreb qui est vraiment un élément essentiel, et l'Afrique, eh bien j'ai envie de dire que positionner nous, la Méditerranée, Languedoc-Roussillon, en bordure de la Méditerranée, eh bien, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et si j'avais, Monsieur le Président, une proposition à faire à Martin Malvy, qui est encore en place, je ne sais pas de quoi sera fait, ou seront faits les lendemains, ce serait que cette nouvelle région, puisqu'on nous demande de nous prononcer sur les noms, elle s'appelle Pyrénées Méditerranée, parce que ce n'est pas une marque de sens réduit. Voilà ma position, et j'y vois incontestablement un très fort intérêt, et pour la France, pour Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et pour nous, les Haut-Pyrénées.
Merci. Bon, juste quelques commentaires rapides avant de passer la parole à... j'ai d'abord Frédéric Laval. Attendez. Parce que je vais être curieux, j'avais Jean-Louis Anglade, Frédéric Laval. Non, c'est pas d'accord. Alors, Frédéric Laval, Jean-Claude Palman, Jean-Louis Dubier. Mais juste avant, d'abord, dernier président, j'apprécie donc le commentaire que vous avez fait par rapport au volontarisme, notamment sous une série de thèse de travail au budget 2015. Je partage aussi la volonté de l'action économique au sein du Conseil général du PASC. ça me paraît indispensable. On peut amener des entreprises de proximité, des encouragements qu'on peut apporter, même des fois avec des aides pas forcément de grande importance, parce qu'au travers du CDDE, tel ou tel accompagnement, tel ou tel accompagnement au travers du Fonds d'action économique, je discute assez avec un certain nombre de chefs d'entreprise du département pour savoir combien ils attendent du département et quel rôle on a à jouer dans ce domaine-là, et dans le domaine du tourisme en particulier. C'est pour ça que je disais l'autre jour que je méfie des formats imposés au plan national, parce que les territoires sont différents, les politiques doivent faire aussi quelque part différentes. Tout le monde n'a pas les mêmes problématiques, les mêmes intérêts par rapport à la dimension touristique. Le département de la dimension touristique, elle n'est pas forcément très avérée. Bon, nous, on a d'autres handicaps, chacun doit s'apprécier ou s'adapter en fonction des caractéristiques de son territoire. Maintenant, par rapport aux problématiques de compétences, dont j'ai volontairement cité tout à l'heure Martin Malvy dans mon propos, parce que je l'ai cité à partir du propos qu'il a eu à la fin. Il m'a dit, Michel, les routes, je reprends notamment, et les collèges, je te les laisse. Alors, j'ai volontairement retenu Mais néanmoins, il y a une délibération qui a été prise par la région en assemblée plénière le 29 octobre 2014. Et là, j'ai quelques préoccupations parce que il y a plutôt la région est favorable à l'unification de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement du second degré. Il demande à ce que, dans un souci de cohérence, je ne veux pas lire, la région souhaite en cohérence avec demande de chef de filât la reconnaissance d'une compétence culturelle globale. Je parle même d'industrie. Dans le domaine du sport, une délégation de l'État et un transfert des compétences devra s'accompagner du crédit personnel afférent. Bon, c'est aussi la culture, le sport, c'est des choses aussi dans lesquelles nous, je considère qu'on joue un rôle important. Dans le domaine routier, concernant le transfert de la voirie départementale, bon, la région aussi appelle l'État et se situe plutôt dans une logique de tout prendre dans cette délibération. Et ça me gêne quelque peu. J'ai volontairement oublié cette délibération pour garder l'annonce faite par Martin Malvy. Et voilà, je dis cette délibération, elle a été volontairement imprimée, elle est grand public, et donc elle est du 29 octobre. Voilà, bon. J'ai une fois encore, l'autre jour, souhaité qu'on garde les collèges. C'est parce que nous, dans la proximité, on est capable de faire un peu du chemin. On était à Pierrefitte, je disais 15 km plus loin, il y a Luz, petit collège de 100 élèves. Bon, le travail qu'on a pu faire avec l'académie, les services d'académie, c'est-à-dire qu'il y aura un principal pour les deux collèges. Il y aura sans doute un gestionnaire pour les deux collèges, trouver des éléments de mutualisation et faire du sur-mesure. Je suis pas sûr que demain, vu par le prisme de la région, on garde le collège de Luz, pour ne citer que Luz et l'autre. Par ailleurs, un travail aussi de relation avec les entreprises pour l'entretien, la maintenance de ces collèges. Pareil pour les transports scolaires, on est capable de faire du sur-mesure et du coût humain dans ce genre de... Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important que l'on garde cette capacité quand même à continuer à investir. J'ai souligné aussi le fait que grâce au financement croisé qu'on a souvent remis en cause, on a fait l'état de géant à travers les financements croisés, que ce soit les politiques territoriales et les pôles touristiques et autres, par l'addition des moyens entre les différentes collectivités. Alors, donc, il fait de la réforme, sans doute, faisons attention de garder quand même des outils efficaces à la fin de ce combat. Frédéric Laval.
Merci, Président. D'ailleurs, je remercie doublement, Président, merci de donner la parole, et merci aussi de nous soumettre ce pré-budget 2015, puisque vous n'y êtes pas obligé. Ça permet transparence, échange et information de l'ensemble des élus, alors que... Sur ces pré-budgets, à part quelques privilégiés qui fréquentent le secteur des finances du Conseil général, nous n'avons pas tous sinon accès à ces informations. Donc déjà, merci. Ensuite, je voulais faire une remarque à José sur... Je suis un peu étonné, sur cette, la posture qui consisterait à dire que les élus ne sont légitimes qu'un jour. Ah oui, grosso modo, il y a 15 jours où on sait qu'ils ont reçu la majorité des voix, c'est le jour où ils sont élus, quoi. Puis après, le doute persiste. Le lendemain, peut-être pas. Bon, ça me semble exagéré, comment on gérerait un pays, une collectivité et autres, si on était légitime qu'un seul jour. On aurait voté tous les jours. Sur le référendum, j'ai deux souvenirs importants. Une votation suisse et un référendum français. Alors, la votation suisse, la dernière dont j'ai souvenir, il y a tout le temps, c'est sur le SMIC à 3000 euros. Je me rappelle que, j'ai parlé en France parce que c'était marquant, qu'ils ont proposé le SMIC à 3000 euros, qu'il y a eu une discussion importante en Suisse et qu'il a été rejeté finalement. J'aimerais bien savoir ce que ça donnerait en France qu'un référendum sur le SMIC à 1500, 2000, enfin, je ne sais pas quel montant, un montant particulier. Parce que le deuxième souvenir que j'ai, c'est le référendum sur le traité constitutionnel européen. Et franchement, j'aimerais ne jamais revivre ça, quoi. Ça a été la division des familles, et pas seulement des familles politiques, quoi. C'est la division des familles, des vraies familles. La division des amis sur des propos qui parfois, des arguments qui parfois étaient franchement du populisme le plus bas possible, où on est même allé jusqu'à nous compter le nombre de mots banques qui apparaissaient dans le texte. Alors que, à côté de ça, on avait en face des discussions de fond pour essayer d'expliquer le contenu. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer le contenu. Alors, franchement, si c'est ça la vision qu'on doit avoir de la gestion du pays, la gestion par référendum, alors là, non merci, quoi. Non merci, quoi, comme dirait Cyrano de Bergerac, non merci, quoi. Enfin, pour revenir sur le dossier, parce que quand même, c'est ça qui nous intéresse, à un moment donné, vous dites, José, qu'on subit les décisions de l'Assemblée nationale. Je me rappelle une qu'on a subie qui permettait d'augmenter les DMTO à 4,5% au lieu de 3,8%. Oh là là, que n'avons-nous pas entendu de tous les présidents de conseils généraux de droite qui disaient que c'était un scandale d'augmenter les taxes comme ça, c'était un scandale. Donc je suis allé voir, grâce à nos tablettes, merci président bis repetita, où en étaient les DMTO de chacune des départements. Hors Paris, l'augmentation, c'est tous les départements, 100%, 100%, de droite, de gauche, PRG, PS, UMP, UDI, il y a PC, il n'y a pas de différence. Il y en a un qui a fait une petite variante, il n'a pas fait 4,5% qui était autorisé. Il y en a un seul, c'est Côte d'Armor, qui on fait dans la finesse et on fait 4,45%. Bon, c'était pour dire qu'ils étaient les seuls, quoi. 99% ont fait 4,5%. Donc, certes, le Parlement, l'Assemblée, notamment, puis le Sénat, en suivant, parce qu'il était socialiste à l'époque, avait décidé qu'on pouvait augmenter à 4,5%, et bien qu'on ait entendu que qu'il y avait des critiques permanentes, eh ben, bilan, tout le monde l'a mis à 4,5% sans se vanter spécialement dans la presse pour le dire, quoi. Donc, malgré tout, quand on nous laisse des marges de manœuvre, on critique, et finalement, dans certains cas, on trouve que c'est positif, même à droite.
Merci, Frédéric Laval. Jean-Claude Palmade.
Merci, Président. À mon tour, quelques propos suite à l'intervention de José Marthe tout à l'heure. José Marthe joue dans cette assemblée son rôle d'opposant. Et il a bien raison, après tout, de le faire. Et nous avons peut-être, nous, l'occasion, dans d'autres assemblées, d'occuper la place qu'il occupe. Et puis, nous avons aussi cette chance dans ce Conseil général d'avoir un gaulliste historique. Donc il faut écouter les gaullistes historiques. Et puis ça permet aussi, l'indépendance du gaulliste historique permet d'avoir d'autres réponses. On a entendu José Durieux, on a entendu Michel Pégneux. Pourquoi ? Parce que tu t'es exprimé, José, et je trouve que c'est très bien. Tu es parti du département et tu es allé jusqu'au référendum. Ça fait un tour et la métaphore cycliste que tu as employée après, d'ailleurs un tour de France, un peu élargi. Alors moi, je vais filer aussi la même métaphore cycliste que la tienne, hein, puisqu'aussi bien tu as parlé du tandem en l'état qui ne trouve pas de grâce à tes yeux, et tu as parlé de leur rétro-pédalage, hein. C'était tout à fait dans le style, hein, de cette métaphore cycliste. Moi, je te dirais deux choses également, simples, je crois. La première, c'est que il y aura d'autres étapes. Il y aura d'autres étapes. Attendons les prochaines étapes. En revanche, et attendons le débat parlementaire, et faisons confiance au débat parlementaire. Vous serez dans ce débat, vous aurez l'occasion de vous exprimer. En attendant ces étapes, il y a quand même une certitude, hein, qui n'était pas inscrite dans la vérité il y a quelques mois. Cette certitude, c'est que le peloton des conseils départementaux ruraux n'explosera pas. On pouvait penser qu'il aurait explosé à l'époque. On avait prédit la mort du département. Ce n'est pas du tout le cas. Le département restera bien vivant et très important dans pour l'intérêt de nos concitoyens. Donc moi, je voudrais simplement saluer cette évolution qu'il y a eu de la part des plus hauts représentants de l'État qui ont écouté, qui ont tenu compte de ce qui a été dit. Je formule le souhait que dans l'avenir, il en soit aussi, et puis attendons un peu et nous verrons comment les choses se décantent.
Merci, Jean-Claude Pelmande. Jacques Dubier, si tu veux démarrer pour la deuxième fois. D'accord.
Oui, merci Monsieur le Président. La première chose, je voulais intervenir tout à l'heure pour revenir, parce que je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre concernant cette notion d'acompte. Je crois qu'il est clair qu'on ne... Non, mais je veux revenir dessus, parce que là, on voit une reconduction en fonction des règles, et vous auriez pu effectivement vous épargner ça, Monsieur le Président, et je vous... Les acomptes, on ne veut pas d'acomptes. Les acomptes, ils sont gérés soit par le règlement financier, soit par le règlement du Conseil général. Je veux dire, c'est contenu dans l'arrêté attributif. Donc, franchement, là, je trouve qu'il y a un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Bon, premièrement, sur ce qui concerne la réforme territoriale, alors, deux mots rapidement, parce que tout le monde connaît maintenant ma position. Effectivement, en première lecture, j'ai porté cet amendement qui regroupait l'ensemble des trois régions, tout simplement parce que c'était un souhait collectif, c'était votre souhait, Monsieur le Président du Conseil Général, on en avait... Alors, c'était aussi le souhait des chambres consulaires avec qui j'avais eu des échanges là-dessus, et donc, et c'était aussi parce que je pense que c'était le bon niveau, puisque le gouvernement voulait à tout prix des grandes régions. Je pense qu'il fallait qu'il soit ambitieux jusqu'au bout et que c'était le bon niveau, comme l'a dit Joseph Durieux, pour effectivement travailler au franchissement de cette barrière des Pyrénées. Avoir une même collectivité qui prend en charge la terrain fixe, je pense que c'était une bonne solution dans le sens aussi où je suis persuadée, et vous l'avez dit aussi, Madame Durieux, que les échanges demain, les échanges commerciaux, le développement, il est au sud, en tout cas, très probablement dans le nord de l'Afrique, avec l'Espagne, le nord d'Afrique, et que ça va aller comme ça en descendant, et que, donc c'est vrai qu'il faudrait faciliter ces échanges, c'était une façon de le faire. J'ai défendu également l'amendement avec l'Aquitaine, tout simplement parce que, d'abord, on avait engagé notre projet territorial qui démontre de cet attrait des Pyrénées vers nos voisins Béarnais, donc la Tutelle. Aussi parce que Joseph Delis a fait référence, elle a parlé des pôles de compétitivité à l'aérospace Vannes, c'est avec l'Aquitaine, c'est pas avec le Languedoc aussi. Toutes les démarches agroalimentaires, c'est avec l'Aquitaine. Bon. Donc je pense que beaucoup de choses plaidaient en ce sens. Là aussi, nous n'avons pas été entendus. Donc, en deuxième lecture, j'ai défendu la position du Sénat, qui était de Midi-Pyrénées tout seul, puisqu'après tout, ça nous laissait un peu plus de possibilités. Tant qu'on est déjà une grande région, puisqu'on a coutume de dire d'ailleurs que Midi-Pyrénées, c'est la superficie de la Belgique. Et on n'était pas si mal que ça non plus en termes de PIB et en termes d'habitants. Comme de toute façon, et Josette, je le redis, le débat n'est pas fini parce que la commission mixte paritaire ne s'est pas mise d'accord. Donc lundi, on remet le couvert à l'Assemblée nationale. Et je veux donc dire devant mes collègues que lundi, je redéposerai un amendement de Midi-Pyrénées tout seul. C'est-à-dire qu'en tant qu'affaire, allons jusqu'au bout de la démarche. Donc je le ferai. Et je ne serai pas là pour le défendre, parce que mais c'est Roger Gérard, je vous en qui défendra l'amendement donc pour Midi-Pyrénées toute seule. Voilà. Ce que je voulais dire sur, sur le reste du débat relatif à la réforme territoriale, d'abord, effectivement, le débat vient juste commencer au Sénat sur la deuxième partie du texte des compétences. Il sera dans l'hémicycle au Sénat à partir du 16 décembre. Et je crois effectivement que c'est là que va se jouer l'avenir du Conseil général. Parce que j'ai envie de dire, le département n'a jamais été menacé. Jamais. Ce qui est menacé, c'est l'organe délibérant, c'est le Conseil général, c'est sa forme, c'est le fait que ce soit une assemblée élue qui gère les affaires du département. Donc, en tant que tel, la structure administrative n'était pas menacée. Ce qui était menacé, c'est le Conseil général. Preuve en est que c'était tellement menacé qu'on voulait faire apparaître ces foutus pour se substituer au Conseil général, les fameuses fédérations d'intercommunalités. Bien, je crois qu'aujourd'hui, en effet, on peut être rassuré. Jusqu'en 2020, on peut être rassuré. Moi, je ne serai totalement rassuré que quand on aura examiné le texte sur les compétences, parce que c'est bien là que ça va se jouer. Alors, pour être totalement transparente avec vous, je veux dire ici, parce que c'est quand même un point qui m'oppose, enfin qui m'oppose gentiment, mais qui m'oppose quand même au président du Conseil général et peut-être à certains d'entre vous. Je suis favorable à la suppression de la clause de compétence générale. Et je ne porterai aucun amendement qui ira à l'encontre de ça. Tout simplement parce que je pense que si nous avions appliqué depuis longtemps la clause, on avait supprimé cette clause, si on avait affecté les compétences et des financements à chacune des collectivités, nous n'aurions pas eu besoin d'imaginer la suppression d'un niveau. Et je veux vous rappeler, vous n'aviez aucune compétence en matière de route nationale. Ce n'est pas pour autant que le Conseil général n'y a pas mis de l'argent. Nous n'avions aucune compétence en matière d'enseignement supérieur. Ce n'est pas pour autant que le Conseil général n'y a pas mis de l'argent. Et pourquoi? Parce qu'on peut régler ça par convention. Donc ce n'est pas parce qu'on supprime la clause de compétence générale qu'on ne peut pas aller sur des sujets d'intérêt départementaux. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus de discipline dessus. Les citoyens ont besoin de ça. Il faut savoir qui fait quoi, avec quels moyens. Et je crois que c'est ainsi aussi que nous éviterons à la fois les doublons et les superpositions d'instructions de dossiers. Enfin, franchement, si vous êtes un peu honnête, quand on regarde les dossiers en matière économique, regardez le nombre de dossiers que doit porter un porteur de projet. Chacun veut son dossier d'une certaine façon. On est incapable d'avoir une uniformité dans la présentation du dossier. Et pendant ce temps, ben, ça fait perdre du temps et on perd de l'efficacité. Je pourrais le dire en matière de tourisme, je pourrais le dire dans... Donc, voilà. Comme ça, au moins, c'est clair, je l'ai dit. Vous ne serez pas surpris sur tout ce qui touche à la clause de compétence générale. Je ne voterai pas d'amendement qui vise au maintien de la clause de compétence générale. Après, je suis une départementaliste et je soutiendrai le maintien des conseils généraux avec des compétences et qu'on mette des compétences précises derrière le terme solidarité territoriale. Voilà, merci.
Merci, Eugène Dubier. Juste avant de redonner la parole à José Marthe. Bon, je dirais simplement, non, juste un commentaire à Eugène Dubier pour dire qu'on peut avoir une différence d'appréciation sur la clause de compétence générale. Globalement, il y a plus de choses sans doute qui nous rassemblent que celles qui nous divisent. Et je voudrais quand même saluer l'action que tu mènes au sein de l'Assemblée départementale, notamment que ce soit dans le cadre de la réforme territoriale, comme dans tout ce qui concerne le redécoupage des régions. Alors, c'est vrai que le commentaire ultime que je ferai là-dessus par rapport au redécoupage des régions, la réforme territoriale en général, c'est qu'on a mené ça de façon trop rapide. Je pense qu'il pouvait y avoir une très belle réforme, y compris dans le redécoupage des régions. Ben, il ne fallait pas vouloir sans doute fusionner des régions entières. Donc j'étais sur une région qui, je l'ai dit à plusieurs reprises, qui est toute la chaîne des Pyrénées. C'était pour aller de l'Atlantique à la Méditerranée. Il n'y avait pas forcément besoin de toute la région Languedoc-Roussillon. Il peut y avoir une fenêtre sur la Méditerranée et gérer une grande façade sur l'océan. Mais ça voulait dire que ce découpage, on ne pouvait pas le faire en 3 mois et qu'il fallait donner du temps au temps, pour reprendre une formule célèbre. C'est la même chose d'ailleurs pour les départements, hein, parce qu'on pouvait aller vers une réorganisation de certains départements. Que je vois la Haute-Garonne, la métropole va disparaître, que va être que va devenir le Comminges de côté ou l'Auvergne de l'autre. Le Comminges avait sans doute peut-être vocation à s'agrandir sur le département du Haut-Garonne. Hein. Oui, bon, mais il y avait un vaste chantier sans doute à faire et à mener avec une certaine. Après, on ne revient pas sur la cour de compétence générale. Je donne la parole à Josémar.
Oui, je ne peux pas laisser sans réponse les interpellations. Frédéric, sur l'affaire des référendums, du référendum en général, notre collègue Frédéric a pris comme exemple le référendum sur le projet de constitution européenne. Et si j'ai bien compris, il semblait se plaindre que ça ait suscité débat et des divisions, y compris au sein des familles. Mais, chers collègues, c'est la démocratie, à moins d'avoir une vision stalinienne où tout le monde doit être d'accord sur tous les textes proposés, encore vrai, et nous avons même utilisé le qualificatif de populiste. Mais on avait le droit sur ce sujet du référendum européen d'avoir d'autres visions qu'une Europe fédérale. Bon, les souverainistes, ça existe, et ils sont aussi légitimes à s'exprimer que étaient les fédéralistes. Voilà ma réaction sur votre propos du référendum. S'agissant de Jean-Claude Palmade, il a évoqué donc l'opposant que je suis dans cette assemblée qui jouerait un rôle. Non, je ne joue pas un rôle de composition. J'exprime des convictions, bien sûr. Et je suis convaincu d'une chose, et nous sommes beaucoup dans ce cas, à tour de rôle, nous avons eu la chance de siéger dans des positions de majoritaire et de minoritaire. Eh bien, je crois que c'est extrêmement intéressant et formateur. Et j'avais tiré la leçon que lorsque l'on était en situation de majoritaire, il fallait toujours avoir le respect de l'opposant minoritaire. C'est extrêmement... Et je regrette que ceux qui n'ont connu qu'une situation de majorité dans une majorité. Ils sont amputés de quelque chose. Donc ça, sur ce plan-là, c'est excellent d'être à tout le rôle majoritaire et minoritaire. Vous avez également dit dans votre propos que vous attendiez. Vous ne l'avez pas dit avec délectation, mais c'est moi qui l'ajoute, avec délectation, les échéances électorales à venir. Vous auriez eu beaucoup de courage de dire que vous les attendiez avec délectation. Parce que lorsque je constate des sondages, il en tombe tous les jours, que même au sein du Parti Socialiste, eh bien, une majorité, je dirais même écrasante au sein du Parti Socialiste, ne souhaite pas que l'actuel président de la République soit un nouveau candidat. Je referme la parenthèse. Et pour terminer, Jamine, sur le problème de la clause de compétence générale, sache que tu n'es pas seul pour demander la suppression. Tu n'es pas seul.
Bon, dernière intervention de Josette Verrieux, et après on va essayer de passer l'autre, parce que nous, on a déjà le préfet, il y a la commission permanente.
Sur la compétence. La clause de compétence générale, parce que moi aussi, je suis pour qu'elle soit maintenue au département. Et je veux dire pourquoi. Le département, c'est un espace, on l'a dit, il est sauvé. Sa gouvernance, dans le fond, il y en aura une. Hein, il y en aura une. Que ce soit la somme des interprètes, ça ne me paraît pas la bonne, parce que c'est un enfermement. Moi, personnellement, je dis. Les présidents de l'Interco, je ne sais pas dans quelle proportion, plus les conseillers régionaux à l'intérieur, c'est le meilleur moyen de leur mettre deux pieds sur les projets de la zone de proximité et ensuite d'être porteur du message au niveau de la région. On peut discuter. Mais le problème de la gouvernance, bien sûr qu'il est important, bien sûr, le Premier ministre l'a dit l'autre jour, il préoccupe les élus, il ne faut pas qu'il obstrue le débat. Il ne faut pas qu'il obstrue le débat. Moi, si je souhaite que nous gardions la clause de compétence générale, c'est c'est parce que je souhaite que nous restions vraiment campés sur cette compétence au maximum de leur exercice. Et quand je dis une compétence partagée avec la région, c'est parce que je souhaite que nous gardions l'initiative. Et deuxièmement, si nous avons cette compétence partagée, et si par conséquent nous pouvons et nous voulons et nous arrivons à faire émerger nos projets, puisque c'est ça quand même l'objectif, bien sûr que ce qui sera important, ça sera les moyens, mais je pense qu'il est important que nous ayons ce lien entre l'initiative que nous prenons, le projet que nous portons, son financement et l'action qui consiste à le mettre en œuvre. Donc pour moi, ça paraît absolument essentiel. Et si on veut une vie réelle du département et une force réelle pour ce département, eh bien, je pense qu'il faut se battre pour la garder, cette clause de compétence générale, parce que sinon, je craindrais que nous n'ayons qu'une vie végétative à un certain moment. Et ce n'est pas ça que l'on veut.